C'est ton parcours. Présenté par Myriam Benjenad et Nicolas Nado, c'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Espace FM, quatrième numéro de C'est ton parcours. Bah oui, tous les derniers lundis du mois, avec un peu de retard, on reçoit des personnalités pour revenir sur leur incroyable histoire, hein, de leur plus petite enfance à aujourd'hui. Comment étaient-ils enfants? Comment sont-ils passés de l'ombre à la lumière? Leurs plus belles rencontres et anecdotes de parcours? Que font-ils aujourd'hui? Leur actualité du moment? Et cette semaine, nous avons le plaisir, on reçoit deux personnalités. Une première qui est en plateau, comédien, auteur, compositeur, interprète. Vous avez pu le voir aussi bien sur le grand que le petit écran. Bonsoir David Bann.
Bonsoir, très heureux d'être là.
Et dans un instant, notre deuxième invitée qui est en route est chanteuse et avec Chardin, elle a bercé des générations de Français. Et on va tourner tout de suite la première page de ce livre consacré à l'histoire déjà de David Bann qui est en plateau. Et c'est vrai, David Bann, vous avez grandi en Lorraine.
Oui.
Enfant, vous le dites vous-même d'ailleurs, vous êtes un bon vivant, toujours entouré d'amis, et votre frère d'ailleurs était plus le nez dans les bouquins, et vous toujours à l'extérieur avec les copains et jouer au foot, hein, c'est ça.
C'est vrai, toujours à traîner dehors avec les copains, à rentrer à pas d'heure, ce qui faisait la joie de mes parents.
Ouais. Ah ouais. Et du coup, ouais, l'école à côté de ça, c'était minime ou?
Non, j'ai toujours été un bon élève, mais on va dire, je me contentais d'avoir la moyenne, et puis le reste du temps, je le passais en effet dehors à vivre l'aventure, la vraie, quoi.
Et qu'est-ce que vous, aujourd'hui, le regard, justement, sur cette période de cette vie, justement, du petit David, qui était toujours à l'extérieur, à jouer avec ses copains, profiter de la vie, déjà, dès le départ.
Oui, mais je pense que le mot épicurien me définirait bien. C'est vrai je suis dessinateur, donc j'ai fait des études artistiques, vraiment ciblées de toute façon vers l'art. C'est le dessin qui a pris d'abord le premier pas. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps dehors avec les copains à faire 12 000 sports, et ce qui fait que j'ai une carrure incroyable aujourd'hui.
Vous auriez pu être sportif.
Ah, j'ai failli, j'ai voulu être prof de sport à un moment.
Ouais.
Mais bon, voilà, la scène a pris le dessus.
Et c'est vrai qu'avec votre frère Laurent Bann, vous aimez chanter comme des malades, notamment sur du Balavoine.
Ouais, c'est vrai, on tournait en rond dans la cuisine sur une des chansons, je me rappelle plus exactement laquelle, mais j'ai ce souvenir-là. Et c'est vrai que c'est là que le goût du chant commence à prendre le pas, ouais.
Et c'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, vous n'envisagez pas de devenir chanteur, parce que c'était c'était plutôt le sport, là.
Ouais, puis être chanteur, c'est quelque chose qui paraît pas palpable quand on est enfant. On se dit, oui, voilà, on imagine un chanteur comme une star. On imagine, en se disant, c'est le parcours du combattant de faire ça. Enfin, ça doit être... Et puis, on n'a pas forcément... Je me rendais pas compte des prédispositions. Moi, j'étais, voilà, plutôt quelque chose, en effet, dans le domaine du sport, ça m'intéressait bien. Puis le dessin a commencé à prendre le pas au lycée, et puis rapidement, spectacle de fin d'année, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on chante, ça impressionne plus les filles.
Ouais.
Donc que le dessin.
Et on jouait d'un instrument aussi en même temps, peut-être.
Ça cause des filles, en fait.
Guitare ou comme ça, non, c'était
pas. Alors pas encore, mais par la suite, ouais.
Par la suite.
La guitare, et aujourd'hui, je m'accompagne.
Et c'est vrai que au lycée, vous l'avez dit vous-même, vous êtes bon élève et vous dessinez donc justement avec votre frère, hein, Laurent, des personnages, notamment des super-héros type Marvel.
Hein. Ah oui, on est complètement branché tout ce qui est super-héros, ce qui est assez fou de voir qu'aujourd'hui la place que prennent les super-héros de notre enfance dans le cinéma, à quel point ça, c'est maintenant une économie, une industrie. Nous, ça nous fait rêver. On est très heureux. Enfin, moi, je suis hyper heureux quand j'ai vu l'explosion des super-héros aujourd'hui.
Et ouais, et là on est plutôt adolescent à ce moment-là, hein. Là, on est plus dans la tranche de l'adolescence.
Mais par contre, ça c'est très formateur pour le dessin.
Ouais.
Parce que c'est l'observation et rapidement je me suis rendu compte que voilà, il y avait cette fibre-là artistique qui existait et qui fait que je me suis orienté sans trop savoir vers quoi.
Ouais.
Au final.
Et pourquoi des super-héros alors en dessin? C'est pas autre chose.
C'est hyper ludique, on a tout ça. Enfin, l'enfant que j'ai été a voulu être, je pense peut-être Spider-Man.
Ouais.
Mais c'est vrai que le costume d'Iron Man, ça envoie du lourd quand même. Hein.
Et c'est vrai que adolescent, on est dans cette tranche de vie d'adolescent actuellement. Vous avez été à la fac et vous avez aussi fait l'armée aussi, David Bann. Ça je savais pas. Vous avez même été gradé sergent et pendant 10 mois, vous êtes justement dans ce monde à part. Hein. Vous dirigez vos collègues qui sont entrés en même temps que vous. Mais avant tout, c'est une bonne bande de potes. Hein.
Ah ben là, t'écoutez, j'ai l'impression que j'ai 70 ans quoi. Non mais c'est vrai que l'armée, c'est des codes, voilà, c'est toujours vraiment très cadré.
C'était un moment où le service militaire était encore obligatoire.
C'était en 92. Ouais. C'était d'ailleurs dans les dernières années. Pour me dire que je suis quand même un peu jeune, mais c'est vrai que.
Et vous êtes jeune.
J'ai rencontré plein de potes et c'est très marrant parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'envoyais encore un message à.
Ah vous êtes resté en contact avec ce.
Il y a des gens avec qui j'ai des copains avec qui je suis resté en contact.
Et justement, c'est quoi ce regard sur ces formateurs, l'armée? Est-ce que ça apprend sur la vie?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est en effet de toute façon, tout apprentissage, toute expérience est bonne à prendre, mais dis-moi, c'était long quand même. Je pense qu'ils auraient pu réduire à 3-4 mois. Mais c'est vrai que non, j'ai appris à manipuler des armes, j'ai appris à diriger, en effet, tout un groupe. Et c'est vrai que je me suis fait beaucoup d'amis, ouais.
Ouais. Justement aussi, est-ce que au niveau des valeurs humaines, parce qu'on dit souvent aussi que il y en a aujourd'hui qui regrettent que l'armée soit, enfin ce service militaire soit fini. Au niveau des valeurs humaines et peut-être sur la compréhension de la vie aussi, ces formateurs.
Je crois après ça, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. C'est vrai que moi personnellement, j'ai réussi à faire en sorte que ces 10 mois passés au sein de service militaire soient utiles, quoi. Voilà, j'essaie toujours de faire ça en général.
Et justement, on va se concentrer maintenant sur le début de votre métier. Ces rencontres, événements qui ont fait justement de vous une personnalité connue, appréciée du public. Et c'est vrai que vous avez été en contrat de qualification à Nancy, c'est-à-dire à la fois en entreprise et en formation. Et à la fin du contrat, l'employeur vient vous voir pour continuer avec vous. Vous refusez et vous décidez à ce moment-là de faire partie d'un orchestre, comme chanteur. Là, c'est quand même un vrai choix de vie à ce moment-là.
Oui, non, là, ça avait pris le pas. C'est-à-dire que j'ai compris que même si j'ai une formation de dessinateur, que je suis devenu graphiste, que je me sentais pas être sédentaire derrière un ordinateur. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour les métiers qui sont sédentaires, mais j'avais cette fibre vraiment de vouloir être sur le terrain, quoi. Et là, c'était l'époque de l'explosion des comédies musicales, et je sais que il y a eu Starmania en version 94-98 avec Bruno Pelletier qui chante le temps des cathédrales dans Notre-Dame de Paris. Mais c'est vrai que cette version de Starmania m'a montré qu'il pouvait y avoir sur scène un spectacle qui alliait le chant, la danse, le théâtre, mais qui soit quelque chose de viril quand même. Mmh. Pas les claquettes, comme on a tendance à penser à la comédie musicale, les claquettes de Demoiselles de Rochefort, ce qui est très drôle parce que la première comédie musicale que j'ai fait à Paris, c'est les Demoiselles de Rochefort.
C'est ça qui est marrant. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé aussi, votre entourage, justement, de ce choix de carrière et pas de continuer avec la sécurité de l'emploi? Parce que c'est vrai, de refuser, peut-être, c'était quoi? C'était un CDI qu'on vous proposait de
continuer? Oui, on proposait un CDI, mais en fait, je crois que c'était des choix, ça a été un choix qui a été... il y avait aussi, il y a ce système en France, c'est vrai qu'on va pas se cacher, de l'intermittence du spectacle qui permet de, en cumulant un certain nombre de cachets, on peut en vivre. Voilà. Ouais. Donc ça m'assurait quand même une sécurité, alors qu'aux États-Unis tous les comédiens, chanteurs sont serveurs. Alors qu'ici en France on a cette chance-là maintenant. Donc j'ai, avec les orchestres de bal de l'époque qui tournaient en province, je pouvais faire mes cachets tous les week-ends, voilà. Ouais. Mais c'est un métier très très fatigant, très difficile. Tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, tu montes dans un camion, tu montes le matériel, tu vas dans une ville, t'installes le matériel, tu fais ton long show pendant 6 heures. Ouais. C'est des balles qui duraient 6 heures. À le terminer, tu remballes le matos et tu rentres. Et ça 3 fois dans le week-end. Donc,
c'est
éreintant. Être sur scène, je me faisais tout le répertoire français, anglo-saxon, ça allait de Balavoine, même chanter le même du AC/DC, du Mexico. Ouais. C'est-à-dire que ça offre une panel et surtout une maîtrise de la scène qui est hyper intéressant. Donc,
c'est formateur aussi. On se forme aussi quand on est peut-être en groupe comme ça, avec des conseils de personnes qui sont là depuis plus longtemps, de savoir comment gérer aussi cette fatigue.
Bien sûr, et surtout aussi, ça m'a permis de commencer à m'intéresser à la création.
Ouais.
De commencer à créer, parce que de devenir auteur-compositeur.
Ouais.
Et du coup, bonjour. On peut quand même se...
Bah oui, saluer. Stone qui arrive en plateau. Mais avec grand plaisir, Stone, installez-vous. Oui, c'est formateur. Ouais.
C'est très formateur. Ouais. Et surtout, ça a été le moment où j'ai voulu devenir auteur-compositeur. J'ai commencé à écrire et rapidement j'ai créé des chansons, j'ai écrit et j'ai commencé à tourner avec mes groupes de compos. Voilà.
On accueille Stone. On est très très heureux de la recevoir dans cette émission. Allez-y, installez-vous. On avait déjà commencé le beau parcours de David Bann. Alors, on n'aura pas le temps d'évoquer du coup votre enfance et votre adolescence. Et justement, on est dans le début de parcours hein, de la belle histoire de Stone que les Français adorent évidemment. Et c'est vrai qu'on passe à ce soir, Stone, où vous remportez le premier concours de Miss. On dit Beatnik, c'est
oui,
ça.
Oui.
Il fallait défiler, danser le jerk. Hein. Vous gagnez d'ailleurs un week-end à Londres et un billet de 100 francs. Et dans le jury, il y avait un certain Éric Chardin, l'homme un peu qui a changé votre destin, faut le dire.
Ah non, c'est pas la peine. Ouais. Non. Oui, c'est ça. Bah oui, vous avez tout dit. Vous avez tout résumé.
Ouais. Et justement, quand même, cet événement, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu ce moment.
Ce moment-là précis. Bah en fait, bon, y a rien à dire de particulier. Je veux dire, pardon.
C'est pas grave.
On organise une petite. On se retrouve avec un monsieur qu'on ne connaît pas qui nous dit je lance une discothèque dans les Halles.
Ouais.
Est-ce que parce qu'on était un petit groupe de pseudo beatnik hippie de l'époque. Hein.
Ouais.
On avait tous les attributs, la veste avec le signe de la paix, tout le bazar, les garçons avec les cheveux très longs et tout. Bref. Et il nous dit, ça serait formidable que vous organisiez une élection de Miss Beatnik. Comme ça, ça va. Moi, je vais m'occuper de la presse, de tout ça. Ça va lancer ma discothèque. Eh ben voilà, faisons-le. Alors, qu'à cela ne tienne. Donc on s'est retrouvés. Mais alors c'était très artisanal. Il y avait rien à voir avec les Miss qu'on connaît. On était habillés comme tous les jours. Et puis voilà, fallait danser le jerk. Alors on a dansé le jerk, voilà. Et puis défiler devant une dizaine de personnes, quoi. C'est tout.
Et avec cette belle rencontre aussi
voilà,
avec
Éric qui faisait partie de public, puisque des amis à lui de journaliste Salut les copains l'avaient récupéré, contraint et forcé. Même après, j'ai appris par la suite qu'il voulait pas venir parce qu'il était dans une période où va mal, où vais-je courge. Enfin, il était souvent comme ça, mais là particulièrement. Et du coup, on l'a un peu emmené de force, on l'a installé. Et cet idiot, il a rien trouvé de mieux que de picoler comme un trou, quoi.
Ah bah voilà.
Soirée, voilà. Ah ouais, là, il s'en est mis plein là. Alors donc, il était plus du tout en mesure de voir quoi que ce soit. Il a voté pour une fille qui passait, bon bref. Après, il était dans les toilettes, on l'a laissé dans les toilettes une bonne heure, il sortait pas des toilettes, on savait plus où il était, enfin voilà, c'est la première soirée a été extrêmement désagréable quelque part, sauf l'élection qui était sympa, bien sûr.
Et d'ailleurs, en 66 aussi, vous faites une autre rencontre décisive, hein, c'est celle de Jean-Pierre Orfino, l'ex-bassiste du groupe de rock Les Pirates.
Oui.
Et à ce moment-là, justement, il est directeur artistique chez Polydor, il vous signe comme chanteuse, mais vous n'avez pas de chanson à chanter. Ouais. Éric Chardin, à ce moment-là, vous propose d'écrire et composer des titres pour vous. Et
c'est
et vous étiez d'accord sur le coup et vous dites allez on tente le coup
que ouais. Ça, parce que ça faisait déjà 3 mois moi que j'avais signé mon contrat et on attendait qu'une chose, c'est d'avoir des chansons pour les enregistrer, c'était la base de l'affaire. Et puis moi je savais pas du tout à qui m'adresser, à qui, quand on débute comme ça, à qui on s'adresse. Alors j'entendais des chansons, La plus belle pour aller danser, Sylvie Vartan, mais c'était Aznavour qui lui avait fait. Bon, après j'entendais Comme un garçon, Jean-Jacques Debout, enfin que des auteurs prestigieux, donc moi j'avais même pas imaginé de les contacter, ces gens-là. Mmh. Et mon directeur artistique, c'était pas mieux, hein, parce que lui, il sortait comme bassiste du groupe, donc lui, il avait pas non plus de branchement dans quoi que ce soit. Et puis, justement, donc, le temps passe, les mois passent, enfin, les mois, il y en a pas eu 50, mais il y en a eu quelques-uns. Et puis, Éric arrive, donc, cette fameuse soirée. Heureusement, vu l'état où il était, le soir même, non, rien. Je suis parti là. Je sais même pas comment il est rentré, enfin, je m'en suis pas occupé. Mais par contre, quelques jours plus tard, qui j'ai vu arriver, mon bon Éric, de nouveau.
Ah bah voilà.
Il nous avait demandé, le patron, de venir animer un peu les soirées. Alors on faisait le Palladium et puis après on descendait dans l'autre boîte. Et il est arrivé et là il était à Jeun là, et on a eu la possibilité d'échanger. Et là il m'a dit, mais moi je suis auteur-compositeur, c'est mon métier de faire des chansons. Alors là,
et là il vous propose justement d'écrire.
Il pouvait pas mieux tomber.
Alors David Bann, c'est lors de justement de ses débuts hein, dans le monde musical.
Je fais une parenthèse, c'est génial. Hein,
c'est
ça,
génial.
C'est un autre.
C'est une
monde,
icône Stone.
C'est une autre époque.
C'est
une autre époque.
C'est ça qui est marrant aussi là.
Peut-être les
voilà.
Éric, il montrait les chansons aux chanteurs, il prenait sa guitare et il allait chez eux et il leur faisait. Alors tiens, j'ai une petite mélodie. Ling 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 ling. Et alors tout ça, alors il disait oui, mais non. et c'était ça, comme ça que ça se passait, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, c'est beaucoup, voilà. On fait des radios crochets, mais il y en avait aussi à l'époque, The Voice. C'est vrai que ça, là, on a l'impression qu'il y a une espèce de simplicité, en fait. Oui, plus de simplicité. Ça matche pas, les rencontres, le réseau, les...
Bon, voilà. Il n'y avait pas tous les gens qui viennent s'immiscer au milieu. Il y en avait, bien sûr, mais peut-être moins qu'aujourd'hui.
Alors, David Bann, c'est vrai que c'est lors de ses débuts, justement, dans le monde musical, que s'est créé un groupe de composition. Et vous faites le tour des festivals avec des musiciens, un style musique très rock, avec un mélange de pop aussi. Et vous faisiez des CD que vous graviez et vous les vendiez, justement, une montée en puissance et plein de fans à la clé, d'ailleurs, à ce moment-là.
En fait, je suis un artisan. Je me définis un peu comme ça. C'est vrai que je cherchais... Évidemment, j'ai débuté, donc je commençais à créer mes chansons. Mais le fait de fidéliser les gens fait que, au fur et à mesure des concerts, il y avait de plus en plus de monde, et surtout qui retenait les paroles des chansons. Et ça, à partir du moment où les refrains commencent à rentrer dans la tête des gens, et surtout qu'il y avait une espèce de côté très proche, très très proche du public et très très ok. C'était très rock, mais ça parlait quand même relativement à un public assez large. Donc du coup, assez rapidement, j'ai pu les fidéliser. Ça, c'était top.
Alors maintenant, on va passer justement, là c'était dès les débuts dans le métier, vos expériences, les principaux événements de votre carrière. Alors Stone, vous formez justement ce duo, Stone et Chardin, et le titre...
Bien plus tard.
Bien plus tard, on est en 71.
Voilà, 5 ans après, notre rencontre. Oui.
Et le titre L'Aventura est d'ailleurs l'un de vos plus gros succès. Mais alors ce qui est marrant, et on l'imagine pas, et tout le monde ne le sait pas aussi, c'est qu'il fait un bide au départ. Mmh. Il est même surnommé la merde du mois à Europe 1.
C'est vrai.
Et il est diffusé après sur RTL, et là ça a été le véritable carton.
C'est ça, ça s'est passé comme ça. Bah à l'époque, pareil, comme on disait tout à l'heure, il y a un côté un petit peu artisanal du métier. Alors bon, bah voilà, on avait la chance d'avoir Monique Lemarcy, qui était la grande prêtresse à RTL, et elle a découvert une quantité de chanteurs qui sont encore là, la plupart. Enfin, il y en a qui sont partis, mais certains sont toujours là. Et elle avait l'oreille, quoi.
Ouais.
Et contrairement à d'autres qui n'étaient pas soi-disant qui travaillaient dans les radios, mais qui manifestement n'avaient pas cette oreille-là.
Ouais.
Donc en fait, elle a flashé un peu sur cette chanson, et c'est elle qui a un peu été au début de cette grande vague.
Et comment vous avez réagi justement au départ quand Europe 1 titre un titre pour lequel on a mis quand même du cœur, la merde du mois quand même, c'est fort.
C'était des espèces de...
Il
y avait un côté un peu blagueur et tout ça, fallait pas prendre ça très au sérieux, quoi. Donc,
vous pensiez que ce titre il allait marcher au départ?
Ah oui, on y comptait. De toute façon, à chaque fois qu'on sort une chanson,
on l'espère, bien sûr. Mais le carton que ça fait, parce que traverse encore les générations,
bien sûr,
et l'Aventura, c'est encore quelque chose qui est dans nos têtes.
Bah au départ, non, on n'était pas du tout dans l'air du temps, loin de là. C'était une valse finalement, l'Aventura. Hein. Mais on a eu la chance que si Sonny and Cher fasse Sing C'est la vie, qui était une valse aussi, qui était un peu dans le même esprit, disons. Et Mary, qui était pas du tout branché, genre ça y est, on va chanter ensemble, pas du tout. Lui, il se voyait à Elvis Presley, quoi. C'était ma carrière, ma vie, mon œuvre et tout ça. Alors que moi, j'arrive au milieu. Moi, j'étais très contente aussi de faire ma petite carrière de chanteuse. Hein. Je travaillais bien, je faisais plein de spectacles, sans problème. Et c'est vrai que le duo n'était pas une évidence du tout.
Ouais.
Et donc ça s'est fait un peu à l'insu de notre plein gré, comme on dit, quoi.
C'est le succès un peu.
C'est ça, parce qu'on s'est dit bon, ça marche pas, tant pis. Hein, je veux dire, on était déjà quelque part des vieux routiers du showbiz. On avait au bout de 5 ans, on a déjà pu comprendre comment ça fonctionnait, quoi. Donc on s'est dit ne plus, on verra. Ça marche tant mieux, ça marche pas, bon, on fera autre chose, c'est pas grave.
Et c'est vrai que j'allais évoquer aussi dans le côté là enfance adolescence. Vous alliez souvent à des concerts, notamment, je crois, avec votre grand-mère, je crois.
Et de Johnny, où
vous attendiez même à la fin, les artistes.
Des coulisses, bien sûr.
Et quand vous aussi, des gens ont pu vous attendre aussi à la fin. Est-ce que vous êtes un peu reprojeté un peu dans ce moment d'enfance?
Complètement. Moi, j'étais une fan invétérée de plein de chanteurs. J'adorais énormément et j'étais vraiment la groupie de service. J'ai encore un très beau carnet d'autographes.
Une collection, tout ça.
Très beau carnet. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de portable, la plupart n'avaient pas d'appareil photo non plus.
Ouais.
On se contentait d'une petite signature, on était très contents comme ça.
Il n'y avait pas de selfie,
ça n'existait pas. Donc, on faisait avec ce qu'on avait. Ouais. Et moi, j'étais capable d'attendre 2 heures. J'avais attendu les Beatles, d'ailleurs, au Palais des Sports, que j'ai jamais vu, d'ailleurs. 2 heures entre les deux.
C'est pas vrai, ils sont jamais sortis,
non,
au final.
Ils sont pas sortis, à mon avis, mais j'ai... Ouais.
Ben justement, ce soir, Stone.
Non, mais je veux dire que moi, ça me faisait pas peur de poireauter quand il fallait. J'étais tellement contente d'avoir mon autographe que voilà, tout allait bien, quoi.
Alors, David Bann, c'est vrai qu'après cette période musicale, vous commencez à répondre là à des candidatures pour des comédies musicales. Vous êtes d'ailleurs contacté par la production de Roméo et Juliette, d'abord pour remplacer Damien Sargue, c'est ça. Mais il y avait un petit souci de cheveux à ce moment-là, hein, c'est ça.
En fait, oui. Déjà là, ça commence à sentir le sapin pour ma mes cheveux. Mais c'est vrai que on était dans la vague Notre-Dame de Paris, Roméo. Moi, j'étais graphiste et je faisais donc ma musique en parallèle. Et je sentais bien que le goût de la scène et du chant prenait le pas. Et j'avais vraiment découvert Starmania, donc. Et comme je me disais, j'avais déjà fait des spectacles en semi-pro en province. Moi, je suis de l'Est de Nancy, donc à Nancy. Et là, je réponds donc à une annonce, parce que je faisais mes groupes de compos, mais ça commence à tourner en rond. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a le fer de lance du bateau et que derrière, on sent que ça suit pas, je me suis dit, bon, je vais aller monter à Paris, je vais tenter mon truc. Donc, j'ai commencé à envoyer des candidatures. Et j'ai Gérard Louvain, El Glem, c'est la même production que Roméo et Juliette, qui m'ont contacté pour passer les castings de remplacer Damien Sargue dans Roméo et Juliette. Donc je suis arrivé au casting, j'ai dit mais pas plutôt Mercutio.
Est-ce que vous savez qui je suis, monsieur? Est-ce que vous m'avez vu?
On va faire comment si vous me prenez? Bon, on met une perruque, donc vous êtes sûr que je vais
dans les interviews, par exemple,
sur scène. Enfin, c'était pas très pour le coup le rôle de Roméo, mais ça m'a permis de les rencontrer. Ils m'ont appelé pour passer le casting des Demoiselles de Rochefort au Palais des Sports de Paris.
D'accord.
Et là, je suis passé des bars en fumée devant 10 personnes complètement bourrées et qui ne m'écoutent pas au Palais des Sports, 4000 personnes, Ear Monitor. Et là, c'était génial. Enfin, moi, j'étais un gamin. Je découvrais un monde, la vie parisienne, dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et j'étais repéré par Bruno Berberès. Et là, j'ai enchaîné les marathons des comédies musicales et j'en ai fait 13 aujourd'hui.
Incroyable, quand même.
Ce qui est très drôle, c'est que là, je reviens de Taïwan, où je joue le rôle du prince de Véron dans Roméo et Juliette.
C'est quand même.
Et c'est un carton absolu. Je pars 3 mois et demi en Chine, là.
Ouais, on va en parler, c'est cool.
Je crois qu'il y a un copain qui joue
dans Théo,
Agathe.
Ah, mais on vient de faire la tournée ensemble.
C'est un des meilleurs amis de ma fille. Ah bon? Et il fait les spectacles de Noël avec le Père Noël et tout. Mais oui, il nous a dit qu'il partait là-bas, c'est pour ça, Théo. Oui. Ah, c'est rigolo, ça, voilà.
Ah, bah, c'est marrant, voilà, exactement. Bien raison. Stone. Alors, en 1975, là, vous divorcez de Chardin et vous participez d'ailleurs à sa comédie musicale My Flower.
On en revient.
Exactement. Et ça, c'était au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est ça?
Ah non, on a joué, oui.
Un véritable triomphe.
Ah ouais,
vous jouez effectivement pendant un an à raison de 7 représentations par semaine.
Oui,
incroyable, quand même.
Oui, beaucoup.
Ça devait être physiquement, devait être intense.
Surtout qu'il y avait 3 heures, il y avait beaucoup de ballet, dont on avait appris, évidemment, avec Amadeo à danser. Chanter, ça allait à peu près, mais chanter avec 36 personnes, c'est autre chose. Et puis jouer la comédie, il y avait des scènes aussi de comédie, quoi. Donc voilà, c'est la vraie comédie musicale, mais on était tous emballés, génial. Puis surtout, c'est pas pour dire, mais Éric Chardin et Guy Montempelli avaient écrit quelque chose de fabuleux, quoi. Il y a des chansons encore maintenant qu'on les écoute qui sont... Et alors, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas pu perdurer, parce que on avait un décor tellement important qu'on n'a jamais plus le...
Ça passait pas
dans les autres des théâtres de province.
C'est incroyable.
Alors,
quand même.
Il n'y a pas eu de tournée à cause de ça, bêtement. Alors, il a fallu reprendre le truc, mais bon, après, les choses s'en vont. Chacun va qu'après à d'autres choses, et puis ça s'arrête là, quoi.
Et c'est aussi une première expérience aussi à ce moment-là, comédie musicale, là.
Ah, comédie musicale, oui. Ouais. Ah, complètement. Ouais,
et ça a été compliqué pour vous de se mettre dans ce bain, en plus, avec énormément de représentations, de se mettre dans ce bain, dans cet univers. Justement, c'est marrant parce qu'on est avec David Bann qui a aussi beaucoup de comédie musicale à.
Musical, moi,
c'est ça, il faut
une certaine hygiène de vie, même
non,
si bon
y
on a tendance à faire la fête,
il y avait l'âge aussi, moi maintenant je le referai pas, mais quand t'as 25 ans c'est sûr qu'il n'y a aucun souci, quoi, c'est génial.
Et qu'est-ce que justement les premiers ressentis de la presse et du public à ce moment-là sur cette comédie musicale
à
l'époque?
Très bon, oui, ça a très bien marché. On a fait beaucoup de monde. Non, ça a été très bien accueilli. Et moi, à la limite, je sortais de toute la période Sonné Chardin où c'était alors là à côté de la comédie musicale, c'était de la rigolade. Hein. En 73, on a quand même fait 300 représentations de
300 représentations, incroyable quand même.
Donc ça paraît délirant complet. Et donc puis le problème, c'est quand on est en tournée comme ça, c'est les kilomètres à faire. Ouais. Parce que évidemment, les dates, c'était un coup à Dunkerque, après t'es à Antibes, après le lendemain t'es à Saint-Jean-de-Luz, c'est comme ça que ça marchait. Ouais. Donc il y avait beaucoup de temps perdu. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute pratiquement, il n'y avait pas de ceinture, tout ça, des catombes épouvantables, enfin bref. Donc c'est vrai que le fait de moi de rester à Paris, rien que ça, et de jouer tous les soirs au même endroit, pour moi, c'était.
C'était royal.
Royal, voilà. Ah oui, bien sûr.
Allez, quant à nous, petite page de pub, on revient tout de suite. C'est ton parcours avec nos deux invités, David Bahn et Stone. À tout de suite.
Voyage Antillais.
Eh oui, Doudou, Voyage Antillais, ni des agences. À Saint-Denis, 4 rue Gaston-Philippe. Et à Paris, 2e, 24 rue du 4 septembre.
Il faut réserver nos billets, notre voyage pour rentrer au pays.
Pas ni problème, Doudou. Voyage Antillais, car était l'agence numéro 1 des Antillais. Vous pouvez yo 0 47 42 95 07.
Waouh! Voyage Antillais nous propose les plus bas tarifs avec 46 kilos en soute et plein de facilités de paiement. Alors, pas pète-temps. Voyage Antillais, là pour faire nous voyager.
Nouveau à Paris, IEL Coiffure et Esthétique. IEL Coiffure est un salon de coiffure mixte pour tout type de cheveux. IEL Coiffure, c'est aussi la pose d'ongles, manicure et pédicure. IEL Coiffure, ouvert du lundi au samedi à partir de 10h avec ou sans rendez-vous. IEL Coiffure répond au 01 42 36 26 06 ou au 07 63 78 72 92. IEL Coiffure, 50 rue Grenetat, Paris 2e.
Yo di jou malè pa ni pre gade. Eh bien, justement, assurance qu'on a là pour prendre garde bao. Si ou l'hôpital ici, famille a ou ka vin voir. Si Basile prend yon di yo, apa, aman, fwè, cesse ou petite qui ka vive au pays, assurance qu'on a ka ba on billet là même. Si malè rive yo, yo ka mené corps au pays, on moun ka accompagne yo, et on belle agence sérieuse. Criez yo en fois. 01 43 14 23 23.
Magic Club Voyage, c'est le numéro 1 des billets d'avion sur les Antilles et bien d'autres destinations. Avec Magic Club Voyage, profitez de deux valises de 23 kilos, soit 46 kilos en soute par personne. Magic Club Voyage est la seule agence en France à vous proposer des paiements de 3 à 20 mois. Avec Magic Club Voyage, partez dès demain et payez en plusieurs mois à votre convenance. C'est vous qui décidez. Magic Club Voyage, 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Voyagez maintenant et payez après avec Magic Club Voyage.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
Attention, est-ce que vous connaissez VT Superstore, la maison créole à Garges-lès-Gonesse? Vous trouverez tous vos produits en provenance des Antilles, de la Caraïbe et de l'Asie. Dachine, igname, avocat, poisson, morue, lambie, crevettes. Sans oublier nos boissons et jus de canne pays. Vitrine, pâtisserie, rayon cosmétiques et tous nos épices en provenance de l'Asie. La Maison Créole, ouvert tous les jours de 9 à 21h au 5 rue Marcel Cerdan à Garges-lès-Gonesse. Info 01 39 88 49 31. Un parking assuré.
Les billets d'avion pas chers à destination des Antilles, de l'océan Indien, la Réunion, l'île Maurice, mais aussi l'Afrique. Appelez-nous au 01 40 15 15 12. Chez Billets Discount, nous sommes à votre écoute tous les jours au 01 40 15 15 12 ou sur notre site internet www.billetsdiscount.com. À bientôt.
Conditions et détails de l'offre sur notre site internet.
Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au fond du Cas de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du Cas, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. A gagné deux bons de 100 euros sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiacolade.com.
Attention, vous voulez déguster un plat haïtien sur place ou à emporter? Le restaurant Aux Ananas est le numéro 1 de la spécialité. Poisson Bruxelles, griot, cabri, banane pesée, piclis, riz tchon-tchon. Le restaurant Aux Ananas, ouvert tous les jours, 11h30, 23h. Animation, karaoké, DJ, live. Le restaurant Aux Ananas, c'est aussi la location de salle pour tous. Le restaurant Aux Ananas, la fierté de la communauté haïtienne. 07 68 65 41 93. 07 68 65 41 93. On fait passer le message.
Dimanche 16 avril, la ville de Stein et l'association Le Débarcadère vous donnent rendez-vous à l'espace Paul-Éluard de Stein pour un rendez-vous unique.
La mafia, c'est yo. Et c'est yo même d'un commande rouleau.
François Ladrezo, la voix authentique du groupe Akio, un concert live. Sous des rythmes gros cas. François Ladrezo, à l'espace Paul-Éluard, place Marcel Pontet. François Ladrezo, un concert live. Dimanche 16 avril, 17h, à l'espace Paul-Éluard, à Stein. Un rendez-vous en partenariat avec Voyage Antillais, Espace FM et Télé Antilles. Prévente 12 euros sur Bizouk et à l'espace Paul-Éluard.
C'est ton parcours. Présenté par Myriam Benjena et Nicolas Nadeau, c'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM.
De retour sur Espace FM, vous êtes à l'écoute de C'est ton parcours avec nos deux invités, la chanteuse Stone, l'acteur-chanteur David Bann. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et on va reprendre justement ce fil et ce beau parcours. Vous êtes peut-être dans la voiture, hein, effectivement, à nous écouter ou ailleurs. Ouais. Voilà, et vous allez écouter ce beau parcours. David Bann, vous êtes repéré par Bruno Berberès, justement, un directeur de casting, on l'a dit, hein, de beaucoup de comédies musicales, de The Voice aussi. Il vous appelle aussi pour Sol en cirque. Mm-hmm. C'est un conte musical de Zazie, Vincent Baguian, Jean-Marie Lowe également. Et vous faites le lion d'ailleurs pendant deux saisons. Et là, c'est à ce moment-là aussi, vous faites de merveilleuses rencontres. Et ça vous a marqué.
Oui, c'est vrai que artistiquement, à la fois au niveau des artistes qui font partie du show. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur les artistes de scène. On n'est plus vraiment sur des chanteurs de comédie musicale préparés à la comédie musicale. Ouais. C'est plus des chanteurs avec des personnalités vocales, des signatures vocales. Et je pense à Julien Lamasson, Sophie Thiam, qui sont des amis aujourd'hui avec qui je travaille encore. Mais surtout, voilà, je travaille avec Vincent Baguian, Jean-Marie Lowe, Zazie, et je vais retrouver Vincent Baguian sur la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille, dont il est l'auteur de tous les textes, avec produit par Debatia.
Voilà. Et Stone, c'est vrai qu'on vous connaît par la chanson, mais il y a eu au début des années 80 aussi la pièce qui s'appelait Le plus beau métier du monde.
Oui.
Que d'ailleurs vous avez coécrite, hein, je crois, cette pièce.
Oui, on l'a écrite
avec Charlotte Julien.
Oui, tout à fait.
Et comment cette aventure elle a démarré, et aussi cette envie d'écrire aussi à ce moment-là.
C'était une vieille histoire, encore une fois. En fait, à cette période-là, on avait toute la troupe du Splendide qui cartonnait au-delà du réel avec toutes les pièces qui ont été des énormes succès. Et on était très amis avec eux, on voyait à peu près tout. Voilà, les hommes préfèrent les gros sous Balasco, Clavier, toute cette bande-là, quoi. Mmh. Et c'était un genre qui était très populaire à l'époque. Ouais. Les petites pièces comme ça de café-théâtre. Et du coup,
C'était très tendance.
Et beaucoup ont été, d'ailleurs, c'est devenu des films, tous les films qui ont été tirés de ça, Les Bronzés et tout ça, c'est parti de petites pièces comme ça. C'est ça, exactement. Le Père Noël est une ordure aussi. Et du coup, Mario Dalba, mon époux lui-même, et Roger Miremont, comédien, qui était aussi dans Mes Flowers, et danseur, et comédien, et chanteur, et tout ce qu'on veut, décide d'écrire une pièce qui s'appelle On vous écrira. L'histoire de deux jeunes pleins d'avenir qui font une audition pour leur rôle dans une comédie musicale, et les deux évidemment veulent être pris, et voilà, cette espèce d'affrontement et de très drôle en même temps. Alors chacun chante des chansons, tout ça, enfin bon, il y a tout. Et cette pièce, ils l'ont jouée un an, ça a très bien marché aussi, ils étaient ravis. Et là-dessus, je me suis dit, moi pendant ce temps-là j'étais tranquille, et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée ça, est-ce qu'on ferait pas la même chose? Et ma copine Charlotte Julien, avec qui j'avais, qui avait eu ces deux gros succès, Flore de province et Allez hop, tout le monde à la campagne, quand même, qui avait deux gros succès dans les années 70, avec qui on avait été parti en tournée, Je l'appelle, je lui dis, ça te dirait pas qu'on écrive un truc toutes les deux, qu'on se fasse une petite pièce comme ça, sympa. On raconte nos histoires, enfin ses histoires, parce qu'elle, elle avait mes 10 000 anecdotes. Ah oui. Vraiment la typique, la provinciale qui arrive à Paris, pleine d'espoir, comme elle raconte, quoi, à la gare de Lyon avec sa valise, qu'est-ce que je vais faire ? Et elle rêve de show business et tout ça, quoi. C'était ça l'idée. Avec bien sûr tout ce qui se passe, tous les gens qu'on peut rencontrer, des plus ou moins bien intentionnés, tout ça. Émaillé de chansons, puisque Mario nous avait concocté quelques petites chansons. Et on a monté cette pièce, toutes les deux.
Incroyable.
On a fait appel à Yves Carlevaris, notre metteur en scène, et on l'a joué un an aussi, tous les soirs, au Théâtre des 400 coups, qui était un petit théâtre à la Contrescarpe, très sympa.
Eh ben, trop sympa. David Bann, c'est vrai que le monde des comédies musicales continue pour vous, avec notamment la comédie musicale Grease, hein, c'était au Comédia.
Ouais.
Et là, vous avez d'ailleurs reçu un Molière pour votre rôle.
Molière, c'est un, je dirais pas jusque-là, un Marius.
Un Marius, pardon. Marius. Mais comme quoi, c'est peut-être un signe.
Un
Marius pour votre rôle Kinnicky.
Kinnicky, oui.
Et à l'époque, d'ailleurs, avoir un prix dans cet univers, c'était plutôt monnaie courante. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, hein, je crois.
Oui, en fait, ils ont... Alors, monnaie courante, je sais pas, mais ils avaient créé ce festival un petit peu, justement, pour être un parallèle.
Mais on recevait plus facilement...
Je sais pas.
Je sais pas.
Non, je pense pas.
C'est vous qui l'aviez confié dans une interview, ça.
Ah non, mon cas, je...
Ouais. Bon, bah voilà.
Non, mais moi, je suis arrivé, je ne pensais pas du tout gagner le truc. J'avais même, en face de moi, des gens de. Il y avait Cléopâtre à l'époque, je me rappelle. Il y avait des super chanteurs. Et je reçois le prix parce que c'est vrai que ce rôle de Kinnicky, c'est un rôle d'un épicurien aussi, bon vivant, homme à femme sur la voiture. Chris Lining, go, Chris. On avait Franck Sidmon sur scène, qui est un musicien incroyable, qui, avec une équipe de musiciens de folie. Et le spectacle, il a vraiment bien fonctionné au Comédia. Et c'est là que j'ai pu avoir mon premier agent qui m'a repéré, un agent comédien. Et j'ai commencé à tourner.
Incroyable.
À tourner à partir de là. Ouais.
Et Stone, c'est vrai que des magazines aussi à ce moment-là se rapprochent de vous pour faire des posés aussi, faire plein de photos.
Oh, j'en ai fait des photos.
Notamment le magazine Louis.
Oui, lui. Mais avant, j'avais fait Mademoiselle Achetante, j'avais fait tous les magazines pour les jeunes filles, voilà. Puis OK Magazine, enfin tous les journaux pour les jeunes qui existaient faisaient appel aux chanteuses et voilà du moment pour. Voilà, montrer les modèles. Et j'ai posé pour lui aussi.
Et vous avez hésité au départ, justement, ou tout
alors,
de suite vous avez...
C'est curieux pour lui, c'est marrant, parce que j'étais très copine avec Joël, il était une fois. Et Joël, elle m'appelle, elle me dit, écoute, faut que je te dise un truc, on me propose de poser dans lui. C'était très bien payé, hein, je vous dis ça. Très bien, ça valait le coup pour ça.
Ah ouais?
Ah ouais. Et elle me dit, mais écoute, c'est incroyable. Il y a jamais de chanteuse qui se pose à poil. Il y a des actrices à gogo. Mais chanteuses comme si elles étaient toutes moches. C'est pas possible. On va montrer que nous, on peut aussi assurer.
Et que les actrices, et que les chanteuses sont belles aussi. Voilà.
Alors elle l'a fait. Je dis, démarre-toi. Je lui dis, je ferai après. Elle l'a fait. Ça a été. Et du coup, j'ai dit, allez, je
tente l'aventure.
Je tente l'aventure. En plus, c'était relativement soft, hein. Il y avait pas trop de, enfin voilà, c'était pas du tout comme ce qu'on peut voir maintenant. Ça restait assez discret.
Alors, il y a eu lui, il y a eu quel autre magazine alors?
C'est tout, non.
Que lui?
Ça, oui, au point de vue de déshabiller, oui, que lui, ça me suffit. Ouais.
Et votre entourage, ils ont trouvé ça cool?
Oh, bah, bien sûr, oui, j'ai pas eu de.
C'est des photos qui sont.
Oui, c'est
voilà,
du charme plutôt.
C'est du charme.
C'était pas pornographique.
Ça reste
cool. Ah, bah non, mais bien sûr. David Bann, vous êtes ensuite repéré par Christophe Baratier.
Oui.
Et là, c'est le réalisateur notamment du film Les Choristes. Hein. Il vous caste justement pour une nouvelle aventure. C'était Il était une fois Joe Dassin.
Voilà.
Et en parallèle, d'ailleurs, vous avez été dans le spectacle La Clique. Hein, c'est ça, un spectacle qui vient d'Angleterre. Et là, vous êtes maître de cérémonie. C'est un peu, tout s'enchaîne un peu à ce moment-là.
Ce qui se passe, je fais Grease. Déjà, Grease. Enfin, comme on veut.
Voilà.
Mais
on va dire Grease. Voilà, comme ça,
casting,
ça s'approche.
Ils arrivent, ils ont tous les cheveux gominés en mode rocker. Cherchez l'erreur. Moi, j'arrive, je suis chaud. Et il y avait une grande glace.
Mais on voit pas pourquoi, David.
Ce qui est très drôle, c'est que je pense justement que le fait que ma culture musicale et que ma formation musicale elle se soit faite dans les bars.
Ouais.
Je suis pas formaté dans une école avec un vibrato comme on peut entendre. Oui, on reconnaît tout de suite la patte des écoles. Et du coup, ce qui fait que j'ai pu décrocher des rôles où ma personnalité me permettait de d'être mis en avant quoi. Et derrière j'enchaîne R. Un mec il fait Grease, il fait R. Il a pas de cheveux. C'est un peu de la provocation quand même. Et ce qui était génial c'est que c'est le verso génération de R un petit peu parallèle. Moi, j'avais une crête. Alors, c'était vachement bien pour me coller une crête sur la tête.
Ouais.
Limite, c'était bien que je sois, chauve. Mais en effet, là-dessus, c'est la fille de Christophe Baratier. Quand elle a vu passer ma tête dans les castings, quand son père dérochait un petit peu les castings de Il était une fois jeu de saint, sa fille me voit, elle me dit, lui, il est génial sur ça.
C'est pas vrai.
Elle m'aimait bien. D'ailleurs, j'ai fait un gros bisou. Et du coup, il m'a casté, quoi. Et puis, ça lui a plu. Et donc, on est parti. Parce que Joe Dassin est une star, faut savoir, à l'étranger, mais surtout en Russie aussi. On est parti en Russie, à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Ukraine. Et c'est fou de voir que là-bas, on arrivait comme les Rolling Stones, quoi. C'était incroyable.
À ce point-là, ouais. Ouais.
Et là, j'ai retrouvé Cécilia Cara.
Ouais, qu'on a reçu, que j'ai reçu dans d'autres émissions.
Avec qui je reviens aussi de Taïwan, qui est sur la nouvelle production, la dernière production de Roméo et Juliette. Donc il y a Damien Sargue, avec qui j'ai travaillé, lui, sur Les Trois Mousquetaires, et Cécilia Cara, avec qui j'ai travaillé sur.
Ouais, c'est un petit monde, hein, finalement. Ouais, hein, c'est une famille, quoi. Hein,
oui,
voilà.
Oui, tout le monde se croit.
C'était le cas avant, pareil.
Ouais.
C'est toujours les mêmes qu'on retrouvait. Moi, on m'avait proposé de faire R la première fois en 69 à la Porte Saint-Martin. Moi, j'ai même pas voulu y aller parce que j'étais, bon, dans un autre contexte. J'étais avec j'avais des animaux et tout ça. Éric Charden avait fait un gros tube avec le Monde Gris, le Monde Bleu. Donc lui, il bossait. Moi, j'étais chez moi tranquille. Mais après, je me suis dit, mais quelle bête. Alors, qu'est-ce que ça aurait été bien de jouer dans R?
Vous avez regretté après, ouais.
Oui, j'ai regretté après. Bah oui, vu le succès que c'était, en plus. Mais
vous avez fait Louis. Mais j'ai.
Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas
fait
pareil.
Lui, c'est pas mal.
Ouais, c'est ça. Non, mais bon, c'est vrai que ça a été fabuleux, quoi, de monter R à ce moment-là, voilà.
Ouais.
En 69, hein, c'est pas évident.
Et aujourd'hui, vous le referiez, ça?
Oh non, maintenant, on est vieux, c'est faux.
Mais non!
Trop jeune, mais si. Alors déjà, à l'époque, quand on était jeune, on disait, les vieux de l'air, laissez-nous chanter, tout, hein. On va pas, maintenant qu'on est vieux, laissons la place aux jeunes, bien sûr. Surtout qu'il y a des très bons éléments.
David Bann, est-ce que c'est peut-être aussi cette tranche de vie qui vous a fait passer de l'ombre à la lumière?
Tranche de vie, alors, j'avoue que j'ai jamais eu la volonté d'être connu. J'ai fait ce métier parce que c'était la passion.
Mais est-ce que vous avez senti justement peut-être auprès du public, peut-être des gens qui commençaient un peu à vous reconnaître
Alors,
à ce moment-là,
musical, c'est oui et non. C'est-à-dire que quand dans les moments, j'ai fait Les Amants de la Bastille, Trois Mousquetaires, Palais des Sports de Paris, pareil. Là, il y a une grosse visibilité, médiatisation, pas sur des émissions de télé, mais ça reste quand même assez restreint. Par contre, quand j'ai commencé à tourner, et notamment quand j'étais pris sur Plus belle la vie, la série Plus belle la vie,
Alors,
il y a ça bascule, quoi. Même si je suis arrivé, je devais faire un mois et demi. Au final, le personnage a plu au public. C'est le public qui choisit, hein.
Ouais.
Je suis resté jusqu'à la fin. La série s'est arrêtée. Mais j'avais un personnage qui commençait à être vraiment bien ancré. Et je me suis régalé. Et là, on rentre vraiment dans le salon des gens. Et c'est incroyable. Partout, je sortais. En plus, personnage de milliardaire, amoureux d'une femme de ménage. On est dans Pretty Woman.
Ah, bah, bien sûr.
Avec une manière de parler un peu.
Voilà.
L'obstant, mon caractère iconoclaste, je ne verse que très rarement dans ce type de travers. J'en ai en doute, apparemment. Donc, c'est un personnage qui était plaisant, qui était amusant, qui avait de l'humour, qui était riche, qui était complètement dévoué à sa chérie. Et du coup, je suis devenu un peu, sur internet, je recevais beaucoup de déclarations d'amour, quoi. Donc,
c'est pas vrai.
Donc voilà, c'était un truc de fou. Et là, on rentre dans le salon des gens. Et là, il s'est passé quelque chose. Mais je reste. Moi, j'ai toujours du recul sur les choses. Je sais que ça dure un temps, quoi.
Allez, petite pause pub. On revient dans un instant. Vous êtes à l'écoute d'Espace FM. C'est ton parcours avec nos deux invités Stone et David Bann.
Vous aimez le foot national, international et des départements d'outre-mer? Un seul rendez-vous, la Team Mika, le lundi de 20h à 22h. Résultats, commentaires et un tour d'horizon complet du week-end de football décrypté par Mickaël, Ludo, Kevin et Maddy. La Team Mika, 20h, 22h sur Espace FM et sur les réseaux avec Espace Foot. La légende Akio en concert unique à Paris. Akio sera sur la scène du Casino de Paris le 9 avril à 20h. Le groupe de gros cas le plus emblématique des Antilles. Un concert proposé par GC Productions en partenariat avec Air Caraïbes et Alwigo. Billets en vente sur Bizouk. Infoline 0892 698 926. Akio en concert au Casino de Paris le 9 avril à 20h avec Espace FM.
Le DJ Flow 1.0 est dans la place.
Mmh.
1.0, un maximum de tubes mixés pour votre plus grand plaisir. DJ Flow 1.0, disponible chez Exo Island à Goussainville, le Caribbean Paradise à Saint-Denis et la Maison Créole VT Superstore à Garges-lès-Gonesse. DJ Flow 1.0, c'est pour ou pas?
Après le succès en Martinique, avec plus de 4 représentations, et en Guadeloupe, Viviane Émigré, la comédienne la plus douée des Antilles Guyane, débarque à Paris pour 2 représentations. Le 2 avril 2023 à 15h et à 20h au Casino de Paris. Du rire et encore du rire. Viviane Émigré débarque à Paris. Prenez vite vos places. Un spectacle proposé par GC Productions, Air Caraïbes et Espace FM. Viviane Émigré au Casino de Paris. Pékeni place boudou.
ACP présente pour la première fois à Paris le duo le plus attendu de la capitale, Cadillac et Pétine, le samedi 8 avril 2023 dès 22h pour une soirée 100% tube. Tout va bien, booking des mariés, coupez mes seins, promettez-moi. Le rendez-vous est au Palace de Villiers, samedi 8 avril 2023. Animation DJ Flo, DJ Sketty. Infoline 06 51 48 58 92. Prévente vivement conseillée. Bien en vente, bisous, Fnac, Carrefour et magasins spécialisés.
Attention, événement. Jean-Yves Rupert et Patson sont de retour pour un tout nouveau spectacle, Les Jumeaux, où ils jouent deux frères ennemis qui se jalousent un magot que chacun espère voler à l'autre. Les Jumeaux avec Jean-Yves Rupert et Patson, le 17 mai et le 18 mai au Casino de Paris pour 3 séances d'une pièce haute en couleur qui va vous faire mourir de rire. Billets disponibles sur bisou.com et dans les points de vente habituels. Infoline et réservation 0892 698 926. Un spectacle en partenariat avec Espace FM et Télé Antilles.
C'est ton parcours. Présenté par Myriam Benjenad et Nicolas Nado, c'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM.
De retour sur Espace FM, vous êtes à l'écoute de C'est ton parcours avec nos deux invités Stone et David Bann. On va reprendre justement le beau fil de ce parcours. Et justement, c'est vrai que Stone, votre duo avec Chardens, justement, se reforme aussi à la fin des années 90.
Oui, oui.
Et en plus tard, justement, vous participez aussi à la tournée Achetant des têtes de bois.
Ouais.
On est presque là à la fin des années 2000. Mmh. C'est aussi une nouvelle génération et une consécration justement en 2012 avec Éric Chardin. Vous êtes aussi décoré des insignes de la de la Légion d'honneur. D'ailleurs, c'était Michel Drucker,
qui nous les a mis. Ouais.
Racontez-nous ce moment, c'est fort, et cette proposition aussi.
Oui, mais vous savez, moi, tout ce qui est décoration, tout ça, moi, ça m'a jamais beaucoup chamboulé, hein.
Ouais.
D'abord, j'ai rien eu, j'ai aucun diplôme dans ma vie, mais je veux dire que c'est pas quelque chose qui me touche.
Ouais.
Mais Eric, on savait que c'était quelque chose pour lui. En plus, le malheur, pauvre, il était déjà malade assez gravement. Il est parti pas longtemps après. Mmh. Et lui, c'était vraiment une espèce de reconnaissance vis-à-vis des gens du métier, tout ça. Puis comme c'était Michel Drucker qu'on connaît depuis toujours, quoi, qui nous l'a remis et tout ça, il y avait un côté très chaleureux comme ça. Et je sais que ça lui a fait énormément plaisir. Donc je me suis évidemment, j'ai dit d'accord, je suis ok, parce que fallait donner son accord. On propose. Après, on accepte ou pas. C'est comme ça que ça marche.
Et là, vous avez accepté. Oui, ça a été un grand moment.
Oui, c'était vraiment très très sympa. Oui, je savais qu'Eric, pour lui, c'était vraiment un moment particulier.
David Bann, c'est vrai qu'il y a eu d'autres comédies musicales, notamment Les Amants de la Bastille. Mmh. Vous êtes aussi un habitué du petit écran, du grand écran. Et ça arrive un peu plus tard, hein, ça, justement, au cinéma, justement, dans Épouse-toi, mon pote, de Tarek Boudali, ou plus récemment dans Alors on danse aussi de Michel Larocque. Comment justement le cinéma s'est offert à vous? Parce que c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tard. Ça a été vraiment les comédies musicales pendant un long moment, et sur le tard, vous avez soit le petit ou grand écran.
C'est vrai que j'ai appris mon métier sur le terrain. Là, les comédies musicales, il y a des parties jouées, donc ça m'a permis de me prêter à ce jeu-là. J'ai fait quelques cours, mais je veux dire, je suis pas forcément un bon élève. J'aime être sur le terrain, j'aime apprendre vraiment en pratiquant. Et c'est vrai que quand j'ai fait Grease, j'ai donc décroché un agent et j'ai tourné dans la série Chante. Avec Priscilla Betty, que j'ai retrouvé par la suite dans la comédie musicale Flashdance. Donc voilà, c'est vraiment que des croisements. tout ça. Et du coup, là, j'ai commencé à décrocher des petits rôles. C'est vrai que j'ai un physique, voilà, je suis grand, je suis rasé, je suis costaud. C'est flic, voyou, videur, c'est pas le bon père de famille, ou bien le prince charmant, quoi. Donc, mais je me suis dit, au moins, j'ai un emploi.
Oui, c'est
donc,
ouais.
J'y suis allé. Et ce qui était génial, c'est que, du coup, quand j'ai décroché ce rôle de milliardaire dans Plus belle la vie, ouais. Ça m'a permis proposer un personnage de composition qui me ressemble pas, mais avec lequel je peux mettre plein de trucs. Il y a de l'humour, cette manière de parler, une tenue différente, parce que la bourgeoisie, je me suis mis tenu un peu plus droit, comme ça, avec des costards cravates, mais je me suis régalé. Ouais. J'avais Ferrari, Rolls, Villa Gabi à Marseille. C'est les conditions de tournage.
Idéal.
Et c'est vrai que dernièrement, j'ai pu tourner avec Jacques Audiard sur la série Le Bureau des Légendes.
Ouais.
Et là, dernièrement, j'ai tourné avec Omar Sy dans Loin du Périph, réalisation de Louis Terrier, où là, c'est... Bon, je n'arrête pas d'apprendre des choses, et j'ai appris les sports de combat, grâce aux Trois Mousquetaires, le comédie musicale des Trois Mousquetaires, où j'ai travaillé avec des maîtres d'armes, et je me suis formé à la cascade. Ça m'a permis de faire ce film, où j'ai des grosses scènes de combat avec Omar Sy, et là, je viens de tourner dans la fameuse série d'Omar Sy, Lupin.
Ouais.
Un petit rôle, hein, mais voilà, step by step. Et là, je vais tourner à Cartus. Sur Eric Laven, la série Benoît Génant qui va bientôt sortir. Mais voilà, c'est que du plaisir. C'est le plaisir qui me fait avancer. Je crois qu'il y a une question pour Stone.
Et Stone, c'est vrai qu'en 2012, vous sortez Made in France.
Oui.
C'est un album de reprises, hein, composé de reprises de duos de français célèbres. On a notamment J'ai un problème, hein, de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Dieu est un fumeur de Havane, hein, de Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg, notamment. Hein. Pourquoi justement fait le choix justement de ces reprises? J'ai l'impression qu'on revient un peu en enfance. Un petit peu, avec tous ces personnes dont vous étiez fan et dont vous attendiez.
Oui,
là, je vois la petite Annie qui attendait à la sortie du concert.
Oui,
c'était un clin d'œil.
Oui, c'est un petit clin d'œil. Non, mais c'était plus un. On arrivait à une période où Eric, on savait qu'il allait bientôt pas s'en aller, et on voulait, disons, un peu se démarquer, ne pas refaire une énième chanson à deux. Et on rigolait de ça parce que Eric prétendait, à juste titre, qu'on avait été les parents de tous les gens qui se sont mis en duo derrière nous, parce qu'il faut les pionniers, parce qu'il faut savoir qu'avant qu'on ait du succès, beaucoup de gens s'étaient essayés à la formule duo et ça avait jamais fonctionné, marchoté un peu, mais citez-moi des duos qui ont été des gros succès. Il y avait Lynn et Willy qui avaient leur petit succès, il y avait Kate et Maxime Le Forestier, ouais. Et sa sœur, il y en avait plusieurs, il y avait Marianne Mille et Maurice Dulac qui avaient bien marché aussi, qui avaient eu un petit succès, mais il y avait pas vraiment l'engouement qu'il y a eu après. Et on était, Eric était très fier parce qu'il dit c'est grâce à nous, à moi, il disait mais à nous, que après, il y a eu Sheila et Ringo, il y a eu Johnny et Sylvie, ouais. Et après, il y a eu qui n'y a pas eu après. Alors tout, il n'y avait pas une moindre émission de variété où il y avait des duos qui se composaient pour un titre ou quoi. Nous, on a vu par exemple Souchon et Voulzy chanter Made in Normandie, l'autre Souchon déguisé en moi. Enfin bon, ça a pris des proportions très drôles. Et il y a eu des très bonnes chansons dans le tas, c'est ça. Alors Eric a dit tiens, voilà, j'ai cette idée-là. Et lui, c'était d'autant plus méritoire parce qu'il avait beaucoup de difficultés à apprendre des chansons qui n'étaient pas composées par lui. Oh là, c'était, un jour, il était allé au Festival de Venise, on lui avait imposé une chanson, ça a été un désastre, il fallait qu'il chante en italien, il racontait n'importe quoi. L'auteur, il voulait le tuer, il disait Spinetti, Cannelloni et tout.
Incroyable.
Parce qu'il était tellement, il avait tellement le trac qu'il savait plus quoi dire, et c'était pas une chanson à lui, mais ça a été, il a failli vraiment se faire écharper par le, enfin bon, c'est une petite anecdote en passant. Et donc, il avait beaucoup de mal à apprendre les chansons. Et là, il dit, je vais faire l'effort, je vais apprendre toutes ces chansons. On les connaissait pour la plupart, mais il fallait quand même les savoir du début à la fin. Et comme ça, on va faire, voilà, la chose. On fait une espèce de boucle, voilà. On est les précurseurs et on chante les chansons de tous nos enfants, entre guillemets.
Mais c'est vrai. Hein.
Voilà, et comme ça, et en même temps, on s'est régalé à le faire. Et puis en plus, l'avantage, c'est que là, on a fait ça chez lui, comme il avait des difficultés pour bouger. Il avait un petit studio avec un copain qui faisait l'arrangeur et qui faisait tous les, enfin tout quoi. Et on a fait ça chez lui, dans son appartement. Vraiment, c'était très 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 doux, très cool.
Et David Bann, c'est vrai qu'on vous a retrouvé à la télé hein, dans Plus belle la vie. C'était Valentin, c'est ça. Hein,
Valentin Carrier. Ouais.
La voix parlée, chantée du méchant. Alors je sais pas comment ça se prononce.
Ra's al Ghul.
Exactement.
C'est parce que je fais de la voix off aussi. Enfin, je fais du doublage et c'est vrai que là c'est du dessin animé. Ouais, c'est de la série DC Comics. Enfin, c'est les ennemis de Marvel.
Ouais.
C'est ça. Et donc du coup, le Ra's al Ghul, c'est le gros ennemi de Batman.
Ouais.
De Batman.
Ah, oui,
et avec une voix qui parle un peu comme ça. Ouais. Je suis Ra's al Ghul. et je me régale quoi, parce que c'est pas à la fois chanter, à la fois jouer. Et c'est du doublage. C'est encore une expérience.
Plateforme de streaming dans Lupin ou dans les jeux vidéo dans Assassin's Creed aussi.
Ouais. Assassin's Creed.
Quelle anecdote justement vous souhaitez nous raconter? Peut-être il y a eu une boulette un jour dans... Racontez-nous, c'est
en
encore
fait,
mieux.
Moi je suis papa, j'ai deux garçons qui jouent aux jeux vidéo et là je vais faire des voix dans Assassin's Creed, donc c'est vraiment un must dans le domaine des jeux vidéo. Et je croyais que le nom était déjà sorti. Donc j'arrive en studio et je tape sur internet, je vois okay, Assassin's Creed Empire ça s'appelle.
Ouais.
Et je dis bon bah voilà, je poste une petite photo actuellement en train d'enregistrer Assassin's Creed Empire, je dis le nom et là j'ai fait la boulette, c'est que le nom était top secret.
C'est pas vrai.
Et du coup, quand tu fais ça, c'est sur les réseaux, c'est parti dans tous les pays. David Bann fait la boulette et balance le nom du prochain jeu. Et surtout, quand tu fais ça, je l'ai appris après, d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que tu dis que le jeu est en train de se faire enregistrer en français. Et va sortir, et ça permet aux autres concurrents de se positionner par rapport à leur jeu. Il paraît que ça fait baisser le cours.
Mais ça a eu quoi? Il y a eu des conséquences sur ça ou?
Donc je me suis bien fait engueuler surtout, mais.
Ouais. Mais ça va tant que c'est que ça.
Non, ça va. Après, ça s'est bien passé. Mais non, ça s'est résorbé, mais ouf. J'ai retiré le truc, mais ça.
Ouais, c'est voilà. Parti assez vite.
Super.
Oui, parce qu'en fonction aussi de peut-être du nom, etc., les autres se positionnent.
C'est tout ça, c'est un business. Il y a des choses qui nous échappent, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des clauses de confidentialité.
Ouais.
Un peu de partout maintenant. Hein.
Ouais.
On dit rien sur rien, quoi.
Et c'est vrai, Stone aussi, vous êtes une membre active aux côtés de Jean-Luc Romero de l'association, et ça, c'est vraiment une belle cause, hein, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui milite hein, pour justement le droit de chaque citoyen dès lors qu'on est arrivé à la fin de sa vie. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet qui fait débat depuis de nombreuses années avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement aussi de militer d'une certaine façon pour cette cause?
C'est toujours des rencontres. Hein, moi, à chaque fois que, comme on disait, hein, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire dans la vie. Moi, j'ai rencontré Jean-Luc, qui est un passionné de la cause. Et vous, voilà, une fois qu'on a compris son discours, on ne peut qu'adhérer à sa lutte, quoi. Parce que c'est, en plus, ce qui est stupide, c'est qu'on sait que la loi est passée dans différents pays où ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de plus de gens qu'on tue. Bon, est-ce qu'on s'imagine qu'on va tous les assassiner? Pas du tout. Et qu'à un moment donné, on aimerait juste qu'on puisse disposer de sa vie. Comme on dit toujours, on n'a pas demandé à venir au monde. Si vraiment on estime que le temps est à passer, qu'on souffre trop, qu'on est vieux, que tout ça, qu'on puisse au moins dire. Et ce qui est fou, c'est que, comme toujours, quoi, c'est très hypocrite parce qu'on sait bien que ça se fait. Exactement, on est dans le même.
Et puis même dans d'autres pays.
Quand c'était, ouais, ouais. Pas, que c'était la loi n'était pas passée. Exactement la même chose.
Ouais.
Ceux qui ont de l'argent, ils peuvent.
Et on a l'impression que ça a jamais passé ça. C'est vrai que ça fait des années que ça dure.
Ils vont très bien, ils font ce qu'ils veulent. Et ceux qui peuvent pas, et ben s'ils ont pas un médecin compatissant et qui risque aussi, parce qu'il a pas le droit non plus, ça se fait quand même, bien sûr, comme tout. Donc on se dit qu'à un moment donné, ça serait bien que la loi passe, quoi. Ça serait.
Et c'est vrai qu'on a l'impression que depuis de nombreuses années, ça ne passe. Jamais, en fait.
Ben non, parce que, je vais te dire pourquoi, alors c'est un vaste sujet, mais parce que c'est les vieux, les très vieux, ça s'appelle l'or gris. C'est-à-dire que c'est une rente pour le domaine musical, non, pas musical, médical, pour le médical, ouais, les maisons de retraite, tout ça. Si tout le monde dit, bon, ben moi, stop, j'arrête tout, évidemment, ça sera du manque à gagner. C'est une question de sous, comme d'habitude.
Incroyable.
Eh oui, c'est comme ça.
David Bann, en 2021, vous sortez en autoproduction votre album, c'est 3-2-1, je crois.
3-2-1, oui.
C'est Pierre Ballet qui arrange l'album, hein, collaborateur de notamment de Guillaume Atlan, de The Superman Lover. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve aussi des titres funk, hein, comme Pas le temps ou encore Plus fort sur le final de Bonjour Ivresse aussi. Hein.
Oui.
Bonjour Ivresse d'ailleurs, il y a quelques des reprises prévues.
Alors ouais. Donc Bonjour Ivresse, bah c'est marrant parce que tout à l'heure vous parliez des pièces voilà qui sont des pièces de boulevard en fait,
ouais,
hein,
ouais.
Et mais qui font tellement de bien aux gens parce que bah, en plus on a joué, moi j'ai rejoint en novembre 2021, ouais. J'ai pas de baiser ou 2022, je sais plus. Bref, Bonjour Ivresse, j'ai repris un rôle en quasiment 5 jours, ouais. Mais disons que ce qui a été génial c'est que ça fait rire les gens quoi, et les gens ont eu besoin de ça pendant cette période de Covid qu'on a vécu. Et j'ai dit à Franck Lehen, qui est l'auteur, je lui ai dit, mais il faut que ça parte en tournée. Et donc là, on a œuvré pour que ça parte en tournée. Actuellement, ça commence à partir en tournée avec des dates qui se font dans toute la France. Et je deviens coproducteur aussi. Et ça, c'est une nouvelle casquette à mon arc, on va dire.
Allez, quant à nous, on va revenir dans un instant sur Espace FM. Vous êtes à l'écoute justement de C'est ton parcours. On est avec nos invités David Ban et Stone.
Maison Betterbath, votre constructeur et promoteur immobilier depuis plus de 30 ans, vous aide à concrétiser votre projet de construction en Martinique. Nous mettons notre expertise à votre disposition tout au long de votre projet, de la recherche du terrain jusqu'à la livraison de votre bien. Découvrez également nos programmes immobiliers complets et devenez propriétaire d'un appartement en Martinique. Contactez-nous au 01 41 78 94 86, 01 41 78 94 86. Nos conseillers vous reçoivent du lundi au samedi de 10h à 18h au 17 rue de Paris à Créteil. Maison Betterbath, construit pour vous en Martinique.
Je suis Rosemarie Farrugia, président directeur général de l'agence Billet Discount. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis à 13h30 et le dimanche à 11h30 avec Justin Lafilo. Le samedi soir dans l'émission de Nico Tam Tam Maloya pour partager les bons plans et les promos de Billet Discount, billets d'avion pas chers sur les Antilles et l'océan Indien.
Conditions et détails de l'offre sur notre site internet.
Après le succès en Martinique avec plus de 4 représentations et en Guadeloupe, Viviane Emigré, la comédienne la plus douée des Antilles Guyane, débarque à Paris pour 2 représentations. Le 2 avril 2023 à 15h et à 20h au Casino de Paris. Du rire et encore du rire. Viviane Emigré débarque à Paris. Prenez vite vos places. Un spectacle proposé par GC Productions, Air Caraïbes et Espace FM. Viviane Emigré au Casino de Paris. Mais quelle place pour tout.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
Monsieur, faites sortir madame. Madame, faites sortir monsieur. Attention, tous les week-ends, je vous amène au Délice. Le Délice, ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Retenez le programme. Le jeudi soir, les afters de 19h à 2h du matin. Le vendredi soir, le Délice vous attend à partir de 20h. Et attention, samedi au souhait, nous dansons sur toutes les nouveautés et gros souvenirs. Le dimanche, le midi minuit, vous êtes à connaître. Le Délice ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On fait passer le message.
La SCAD de Colombes vous convie au midi minuit, le dimanche 9 avril à partir de 12h30. Au tapis rouge 9 rue de la Liberté à Colombes. Venu tout spécialement de Guadeloupe, le typical pressé pressé vous fera passer un moment inoubliable. Un menu alléchant vous attend. Un billet d'avion vers les Antilles à gagner. Info Reza 06 98 82 77 45 ou alors 06 60 81 88 29. AGS, la ville de Colombes et Voyage Antillais.
Magic Club Voyage, c'est le numéro 1 des billets d'avion sur les Antilles et bien d'autres destinations. Avec Magic Club Voyage, profitez de 2 valises de 23 kilos, soit 46 kilos en soute par personne. Magic Club Voyage est la seule agence en France à vous proposer des paiements de 3 à 20 mois. Avec Magic Club Voyage, partez dès demain et payez en plusieurs mois à votre convenance. C'est vous qui décidez. Magic Club Voyage, 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Voyagez maintenant et payez après avec Magic Club Voyage.
Attention, événement. Le Zouk fait son grand retour sur la scène du Zénith de Paris. Le 31 octobre 2023, veille de jour férié, le concept Génération Zouk est de retour pour une date qui rentrera dans la légende. Orlan, Harry Diboula, Jean-Luc Guanel, Joël Ursule, Mulka, Eric Virgal, Leïla Chico, Harry Sundourayan, Thierry Cam, Luc Léandry, Jacques Darbo, Jean-Michel Jean-Louis et bien d'autres. Génération Zouk le 31 octobre 2023 au Zénith de Paris. Un concert orchestré par Tempo Classic Live. Billets disponibles sur bizouk.com et dans les points de vente habituels. Un spectacle en partenariat avec Corsair.
C'est ton parcours, présenté par Myriam Benjena et Nicolas Nadeau. C'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM.
De retour sur Espace FM, merci d'être à notre écoute et d'être aussi nombreux pour justement ce soir écouter le beau parcours de nos invités David Bahn et Stone. Et Myriam, justement, tu vas leur poser quelques petites questions pour les apprendre à connaître.
Alors tout d'abord, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Comment ça va? Bonsoir Stone.
Bonsoir.
Et bonsoir David et bonsoir Capo. Voilà. Voilà. Et bien sûr, et bonsoir à tous les auditeurs auditrices qui viennent de nous rejoindre, et surtout si vous êtes sur la route, prudence, soyez très prudents. Alors Stone, ben écoute, je suis vraiment ravie, d'accord, parce qu'on s'est vu la dernière fois avant le confinement. Voilà, tu ne changes pas, hein. C'est incroyable, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Toujours le sourire. Toujours une beauté. Tu sais que je suis fan de toi.
Hein. Merci, c'est gentil.
Non, mais c'est la vérité. Hein. Voilà, moi je suis sincère, hein, je le dis. Hein. Voilà, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, mais je suis fan de toi. Bonsoir David.
Alors j'ai peur du coup, parce que j'ai peur de pas être aimé du coup.
Non, David, faut pas dire ça. Non. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui observe. J'observe, je regarde, mais j'aime beaucoup tes yeux. C'est la vérité. Voilà, depuis tout à l'heure, je te regardais, t'es vraiment... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas d'amour, c'est la vérité. Il a des beaux yeux. Non, c'est un très bel homme.
Merci,
tous les deux, vous avez des beaux yeux.
Faut d'avoir de beaux cheveux.
Non, mais tu es très bien. Tu vois, très bien. Alors, la première question que je voudrais vous poser, les trois mots qui viennent dans votre esprit, par exemple, voilà. C'est quoi le plus important pour vous, les trois mots qui vous viennent dans l'esprit?
Les trois mots justement là qui vous viennent tout de suite comme ça,
allez,
sur l'instant,
allez.
Présent.
Amour, passion,
oh,
famille.
Ah.
Bravo.
Amour, passion, famille.
Eh ben voilà.
Et chanson.
Bravo. Et le sport que vous adorez?
J'ai fait quasiment tous les sports possibles, imagine.
Peut-être s'il y en a un en particulier là qui vraiment sort en top 1.
Là, je fais de la boxe là en ce moment, ça fait que ça défoule bien quoi.
C'est pas vrai. C'est,
bravo.
C'est,
ouais. Bravo. Et toi, ma chère Stone?
Ça serait plus la natation.
Bravo. Ah. Bravo. C'est pour ça que t'as un joli corps, hein.
Oh, mais je
comprends.
Que je nage,
si. Si tu as un très joli corps. Ça y est, j'ai compris maintenant ton secret, hein.
Mais pas le reste du temps. Hein.
Oh, si.
Très flémarde.
Alors, quelle est la photo ou laquelle vous tenez le plus? Quelle photo que vous aimez le plus?
Concerne nous?
Oui.
Ça peut être une photo de famille, une photo d'un artiste.
Oui, ça peut être ça, la photo. Moi, j'ai une photo avec mes enfants que je trouve magnifique. Mais c'est plus eux que je trouve beaux que... Non, c'est l'ensemble. C'est ça, la famille, ouais.
Oui. Et toi, Stone?
Moi, je copie, mais moi, pareil. Moi, j'ai une photo avec toute la famille. J'ai 5 petites filles avec leurs parents et nous. Donc,
5 petites filles,
oui,
c'est pas vrai, ça?
Si, il y a la 6e.
Tu es jeune quand même.
Il s'y est pris à 42 ans, mon aîné.
Ah bon?
Ça va, il y avait de la marche. Hein.
Et je suis sûre, quand tu dois sortir, on doit croire que c'est toi la maman.
N'exagérons pas.
Ou la sœur, exactement. Ou la sœur, j'allais dire, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Alors, quelle est votre lecture du moment?
Ça peut être tout et n'importe quoi.
Si, le dernier Musso, là, je sais plus le nom, vous allez me le dire. Ok, j'ai essayé de piéger tout le monde. Non, j'avoue que je suis un petit peu sur Internet. Je lis beaucoup sur Internet.
Google. du coup.
Ouais, ça, c'est à Google. Voilà. Google. J'ai pas une lecture en particulier en ce moment. Non.
Et toi, Stone?
Alors, moi, je suis une lectrice invétérée, puisque j'écris aussi des petits romans, quoi, voilà. Et j'adore lire. C'est un truc que je lis minimum 3 heures par jour, hein. Ça, c'est un truc qui est basique. Alors, moi, je vais pas du tout sur Internet. Moi, j'ai le bouquin à la main. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Les yeux jaunes des crocodiles de comment elle s'appelle? Ça y est, j'ai perdu son nom, mais bon, bref. Catherine Pancol. Voilà.
Ah oui.
Et c'est vraiment bien. Et là, j'ai mon fils aîné m'a offert un nouveau livre d'une saga. Il m'a dit, tu verras, il y en a 8 comme ça. Et je l'ai commencé il n'y a pas longtemps et il m'a paraît très bien.
Voilà. Estelle, moi, je vais te poser une question, excuse-moi. Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire des chansons pour les enfants?
Ah non, ça, je m'y suis déjà. J'ai tenté, je suis nulle.
Pourquoi?
Parce que c'est un métier. Je pense que c'est des gens qui... Moi, je sais, parce que mon fils, le deuxième, bah lui, il fait beaucoup de spectacles pour enfants, surtout dans les aux périodes de Noël. Il fait des spectacles Père Noël avec plein de personnages, de bandes... Il y a Spider-Man, il y a tout un tas de la Reine des Neiges, tout ça. Et eux, ils font des petites chansons, des petits mots, comme pour les petits, quoi. Et c'est, ça a l'air de rien, mais c'est un boulot, hein. C'est drôlement... En plus, c'est carré, c'est bien répété et tout. Et je constate que c'est pas mon domaine, non. Non, non.
Et maintenant, je vais vous poser à tous les deux, quel est votre animal préféré?
Oh là là.
Moi, c'est le chien.
Ah.
Moi, j'avoue que je suis... Après c'est personnel, mais je trouve qu'un chien c'est toujours plus proche. Le chat, j'adore les chats, mais lui il s'en fout un peu, quoi. Il fait sa life, alors que le chien il donne beaucoup d'amour, je trouve. Mais bon, je dis ça, c'est que mon point de vue.
Alors moi pareil, 50-50, chat et chien. Je viens d'écrire un livre sur tous les animaux que j'ai eus, qui va sortir au printemps là, et ça a été un gros travail parce que j'en ai eu énormément de chiens et de chats, même d'oiseaux ou quoi. Et j'ai en ce moment un chat, Sam, qui est un amour. Alors lui, par contre, il est trop collant, quoi. C'est-à-dire qu'il est en permanence sur moi. Il me frotte comme ça, il lèche, il se met là. Et les chiens, j'adore aussi. Bien sûr, j'ai une chienne aussi, Isée, que je partage avec une autre amie. Et à la campagne, il y a quand même 4 chats, plus 2 autres qui ont été adoptés par mon fils et par une amie qui viennent aussi. Donc on est très bêtes, nous, très bêtes.
Bravo.
Chat, chien à égalité. Voilà.
Merci beaucoup. Allez, Nicolas, je te laisse la parole. Merci.
Et oui, justement, un petit point promo aussi, Stone, hein. Déjà ce livre qui va sortir, effectivement magnifique, dont vous êtes en écriture. On vous retrouve, je le rappelle, toujours avec votre album paru en 2022, 22 titres inoubliables, ben avec votre duo Stone et Chardin, 22 titres comme L'Aventura, Made in Normandie, Le seul bébé qui ne pleure pas, Vive la France, La suite de ma vie, et le dernier titre de l'album, Je t'ai tout donné. Je rappelle également qu'on vous retrouve aussi toujours avec votre ouvrage. Ça s'appelle Ma vie dans tous les sens. Alors ça, c'est paru aux éditions de Champs-Élysées. C'était en juin dernier. Et là, vous l'avez écrit d'ailleurs, ce livre, pendant le confinement.
Pendant
c'est
le confinement, c'est ça. Oui, oui. Bah oui, quand il y avait du temps de libre, bah j'écrivais. Moi, je lis et j'écris quand je sais pas quoi faire. Donc ça occupe un peu les journées. Et je l'ai écrit pendant le confinement, mais j'avais comme ça des choses qui me venaient un peu dans tous les sens, dans tous les domaines, dans tous les styles. Hein. Je parle de plein de choses de différentes. Et puis on s'est dit, tiens, j'ai rencontré un éditeur qui est devenu un ami là-bas où je vis beaucoup plus souvent qu'à Paris, c'est-à-dire dans l'Allier, dans le Bourbonnais, à Montluçon, et il m'a proposé de sortir ce livre, donc, et c'est avec lui que je fais aussi le dernier livre sur les animaux, parce qu'il y aura un salon du livre animalier à Périgueux au mois d'octobre prochain. Et donc, j'y participerai, ainsi que bon nombre de mes collègues qui ont écrit avec passion sur les animaux. Voilà.
Et David Bann, justement, bientôt dans la série Benoît Gênant, c'est ça?
Benoît Gênant et avec Artus.
Avec Artus. Alors, ça va parler de quoi?
Alors, en fait, ça tourne autour du personnage d'Artus, justement.
Ouais.
Qui, je peux pas trop en dire parce que ça reste quand même assez...
Ouais. Oui, on va pas refaire la même chose qu'avec le... Ouais, t'imagines?
mais c'est un personnage haut en couleur, à qui il arrive plein d'aventures, et je suis un des personnages. Moi, je peux dire que je tiens une salle de sport. Pourquoi? Je ne sais pas.
Ouais.
Mais voilà, quoi. Ça sera au niveau comédie. Après, là, je retourne en Chine. Donc, à partir de fin mai jusqu'à 10 septembre, je serai, on va faire Pékin, on va faire Shanghai, on va faire 14 villes, en Chine. Et je serai dans une comédie musicale au Palais des Sports de Paris, pour laquelle on a commencé la promotion aujourd'hui. Donc, Gad Elmaleh est producteur, Roberto Sorléo, Léonard de Galard. C'est une comédie musicale merveilleuse, incroyable pour le coup, qui s'appelle Bernadette de Lourdes. C'est la vie de la petite Bernadette Soubirous. On dit
Vous aviez déjà d'ailleurs dans un
deux saisons
c'était dans un il y avait eu un film aussi où vous avez tourné dedans non sur non. ça ou je me trompe
Non en fait il y a eu des films qui ont été
Oui mais vous aviez pas eu un rôle dans quelque chose à ce niveau-là à l'époque
non Ah non.
Non d'accord OK bah je
Non non voilà. En fait on a commencé en 2019 à Lourdes le spectacle et ça a été un carton
Ah oui alors c'était le début alors en 2019 le début de cette aventure
on est parti au Panama et ouais. on sera au Palais des Sports du 21 au 24 mars et après on tourne dans toute la France ça c'est merveilleux très beau spectacle.
Eh ben en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un numéro de C'est ton parcours avec nos invités Stone, David Charden. Donc Stone, je rappelle, qu'on vous retrouve avec un album paru en 2022. 22 titres inoubliables avec votre duo Stone et Charden. Votre ouvrage, Ma vie dans tous les sens. Ça, c'est aux éditions des Champs-Élysées, toujours disponible et vous pouvez l'acheter. Et prochainement, on la retrouve avec ce nouveau livre sur les animaux. Et nous, on peut déjà dire le titre de ce livre ou pas encore?
Alors justement, on a un peu cogité pour savoir comment on allait l'appeler. Et finalement, on a trouvé un titre qui est marrant, quoi. C'est, quand je dise pas de bêtises, mes animaux avec un Z à poil.
Ah, c'est marrant ça, c'est marrant.
Non, c'est mes amours à poil, pas mes animaux, mes amours.
Mes amours à poil, voilà, comme ça, quand ça sortira, les auditeurs ont retenu le titre de l'ouvrage. Ouais. Et David Bann, bientôt dans la série de Benoît Génant, avec notamment Artus. Et votre album 3-2-1. D'ailleurs, vous allez partir en Chine jusqu'en septembre.
Je pense en septembre. Et ce qui est génial, c'est que là-bas, ils achètent les albums encore. Ils aiment l'objet. Donc là, je suis parti à Taïwan. J'ai vendu plein d'albums.
Incroyable.
Attention à la Chine. J'arrive avec mon album. Ça.
Voilà.
Et je fais des concerts. J'ai plein de concerts avant de partir.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Myriam.
Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes. On revient. À tout de suite. Merci beaucoup, Stone. Merci. Et merci, David. Et merci, Nicolas. Merci.